I started, well, I'm 39. I was watching wrestling when I was, I think, 5 years old. So I have over 30 years of being a fan and almost 20 years of being in it full-time. I mean, I'll put my resume up against anybody's from what I've seen and what I've done. And just when I watch it now, I just don't see Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Road Warriors, Rock and Roll Express, Midnight Express. I mean, I can go on and on about these legendary guys. And to me, the only real big-time name that they've created over the last, you know, 5 to 8 years that draws money in that company and the engine that pulls it is Cena.
Mm-hmm.
I mean, even a guy like Batista, who was starting to draw money and got over, Dave was smart as far as I'm concerned. He got out while the getting was good. I love Batista. He's a good dude.
Yeah.
And but, you know, guys like Batista left, and JBL, and Fit Finley's not there, Shawn Michaels, Ric Flair, The Undertaker's not there full-time, Triple H isn't a full-time guy, and I just feel as if enough time wasn't spent building these new guys by beating the older guys. I don't say older in age, but the guys who were established.
Yeah. They didn't pass the torch.
Yeah, I mean, I just said six names. Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H, Undertaker, JBL, all these, Batista, so many guys basically had matches, and then their last match in the company was usually against somebody who didn't need the rub.
Yeah.
And there was no long programs to build guys, and that, you're seeing it now. I mean, you're seeing a bunch of guys who go out there and wrestle hard, they have good matches, but I could book most WWE matches from start to finish. If you told me how long the match was going to be, 8 minutes, I literally could sit down and tell you, this is probably, with the two guys who are going to be in it, this is how these guys are probably going to start. This is where the break point's going to be. This is where their holds are going to be put in. This is how many holds this guy is going to put on. I mean, I can literally...
They have more structure match than we had.
Blueprint. Yeah, I mean, you could tell these guys are going out there following a blueprint.
Yeah.
They tie up, they do that. It's just not different. There's so many guys who just don't have different wrestling styles, and I'm afraid it comes from, you know, although I love Florida Championship Wrestling, I think it's great. It's about as good as it's going to get. When you have 60 guys all training together, I mean, I don't care how many trainers they have, they're all going to kind of do the same stuff.
Yeah.
Because they all train in the same spot, and then they're going to go up to the main roster and wrestle the guys who they just got done training with. So they're not in the ring with Fit doing 20 minutes a night learning how to call it on the fly. They're not.
Yeah.
I mean, the veterans up there now are like Randy Orton and
John Cena.
I think Miz is considered a veteran now.
Wow.
And some of the other guys who've been there a while, you know, R-Truth and these other guys, and you know, they're doing a great job. I mean, Morrison is probably considered a veteran. And it just wasn't like that 10, 15. I mean, you used to have 10, 15 years before you got to WWE.
Yeah.
And WWE used to be the spot where you ended your career. And I mean that 100%. What I mean by that is you finished your career in WWE. And now all these guys are starting their career in the WWE.
Yeah.
And that's the problem.
Exactly like me. So before we go, what's coming up for the wrestler pretty quick?
Well, I still do a lot of shows and appearances. I'm doing a show in on December 16th in New York for a group as part of the BWO.
Cool.
Deviant Meanie.
I saw Blue the other day at the autograph session in New Jersey.
Yep. I'm doing a convention on December 3rd in Philadelphia.
Cool.
With some of the guys. In January, I might do the a convention out in Los Angeles. So I do some shows now and then, Sly, but I love my job. I oversee three banks during the week. It's a good job, good position. I really like it. And I consider myself a survivor. And I'm actually thinking about starting like a website or something like that.
That's cool.
For wrestlers who are either successful in wrestling in other fields or after they're done with their full-time careers, where we can go and kind of promote ourselves. I saw this thing on Scott Hall on ESPN.
Oh, my God. It was so sad.
And I started thinking about it. You know, why do we all have to be thought of like that? I mean, I must have got 10 phone calls the next day from my friends. Oh, did you see that? Did you see that?
Yeah.
The only time anybody ever wants to talk about ex-wrestlers is when we look like shit or we look like drug addicts or whatever it may be, and it's not fair.
Yeah.
Because you're not like that. I'm not like that. Rob isn't like that. There's a lot of us who aren't, and we actually used wrestling in the real world to get ahead further.
Yeah.
And I think there's something to be said for
it. Well, you should do it. I would be your first member. And yeah, a very honorable one.
Good, man. We should be proud of that. I mean, we spent a lot of time together, Sly. You know me. You know, I'm a no-nonsense people. You love me. You hate me. If they have heat with me, whatever. I never cared. I cared about showing up, doing a good job, having good matches. And, I'm saying it. I was one of the best guys on their roster. Mm-hmm. I could go out there with anybody and have a really good match and do a good job. But towards the end, I grew to hate it. Yeah. And they turned a guy like me off. To it, where I didn't even want to go anymore. So imagine how many other guys that's happened to. And that's why pay-per-view revenue is down, house show business is down, TV viewership is down. Every marketable marker that they have financially in major wrestling is down. And if you think about it, it should be up because it's the only product of its kind to watch, Sly.
Yeah.
There's only one NFL in the world, and the NFL brings in $9 billion a year. So it's not like you can't tell me, oh, there's no competition. There's not. The NFL is the most popular sport in America if you want to watch football. So if you want to watch pro wrestling, that should be the only place where you really want to watch
it. Point.
And it's not. I mean,
good point.
Think about it.
All right. So, hey, thank you, Simon. And you can go to bed now.
Thank you, brother. Go get some heat.
And I'm sure we can look at you on Twitter or Facebook. So
I'll do this show again.
Sounds good, my friend.
Don't worry about it. Put me
hey,
in the digit.
Love you, brother.
Later, brother.
Take
bye.
Care. Good night.
Thank
bye
you. Bye.
Bye.
En finissant, est-ce que tu peux traduire ce que Simon Dean a dit pendant 10 minutes?
Oui, Simon Dean, écoute, on parlait, j'ai posé la question qu'est-ce qu'il pensait de la WWE et rapidement, lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est que 60 gars dans la même bâtisse à apprendre les mêmes moves, c'est sûr que tout le monde va se ressembler, tout le monde va avoir les mêmes habitudes et qu'il ne voyait pas présentement aucun The Rock, aucun Stone Cold, aucun Midnight Express avec la nouvelle génération.
Tu sais, Sylvain, ça fait 4 émissions qu'on fait. Les 4 émissions, nous avons des invités qui faisaient partie de la WWE. Puis tous semblent dire le même discours. On dirait que la zone est grise pour l'avenir.
Mais la zone est grise parce que c'est tellement rendu structuré. Pourquoi que The Rock est devenu The Rock? Parce que The Rock, Dwayne Johnson s'est laissé aller puis a relaxé. Rocky Maivia, il se sentait pas bien dans ce personnage-là.
Puis il n'y a pas eu une bonne accueil non plus pour la continuité de son personnage.
Ouais, mais The Rock a marché. Pourquoi? Parce que c'était lui. C'est lui qui a fait les recherches. C'est lui qui a travaillé sur le personnage. Pourquoi Hulk Hogan est devenu Hulk Hogan? C'est Hulk Hogan!
Mais toi, quand t'es devenu la résistance, est-ce que t'avais la résistance dans la tête?
Mais non, pas du tout. Ils m'ont mis comme ça. C'est comme l'ambassadeur. C'était pas mon idée. Moi, mon idée, c'était le model. Pourquoi? Parce que j'ai été mannequin en Europe. Mm-hmm. Puis je suis beau bonhomme. Puis je pogne des filles. C'est pour ça. Mais c'était vrai, c'est une partie de moi, puis j'aurais pu l'exploiter. Ça a été très mal exploité parce qu'il n'y avait pas la même vision de moi. Mais toutes les grosses vedettes des années 80-90, c'était leur personnage. Il n'y a personne qui a donné un serpent à Jake the Snake Roberts. Il n'y a personne qui a donné le nom Dragon à Ricky the Dragon Steamboat. C'est eux-mêmes qui se sont forgés comme superstars, avec leur talent, avec leurs idées. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les idées sont forcées, c'est ce que Simon Dean nous disait.
Parfait. Écoute, merci beaucoup, Sylvain.
Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut!
Ouais. Salut, Sylvain. Bye. Won't find their place in line, but tie a string around your finger.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Maltais et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite! 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
Hello, this is Earl Hebner. You damn right I did. I'm the best there is, the best there was, and the best there ever be. And you listen to the TOW Radio Show.
On est de retour à l'émission TOW Radio. Patrick, on dirait que j'ai fait par exprès pour faire jouer cette ID parce que ça peut pas être plus thématique que ça. Nous avons, je peux pas dire légendaire, mais la personnalité la plus connue journalistiquement parlant du côté de la lutte professionnelle aux États-Unis. On parle de Dave Meltzer. Hi, Dave.
Hi, how are you?
Hi, Dave. Very good, yourself.
I'm doing very well. How are you guys?
Very good, very good. Dave, I know that you had the chance to have a copy a few weeks in advance of the DVD that got released today, Greatest Rivalries, Shawn Michaels versus Bret Hart. I had the chance to take a look at it today, actually, and it's so different from any other DVD WWE ever produced. Would you consider this as a really a must-see DVD for any wrestling fans?
I think for any fans of that era, it's absolutely a must-see because it, you know, both guys I think were, you know, they're in a position where they usually wouldn't be in. I think I've seen Bret in that position before, but not in anything that WWE has ever done. A little bit on the DVD that Bret did a few years ago, and then Shawn's never really been in this kind of a position. And with Jim Ross there, I just found the whole thing really fascinating. But I think for some modern fans who don't know, I'm not saying it's a must see for them because it's a different time and different place what they were talking about. But I think most of them would enjoy it. But for fans of that era, I would call it a must see for sure. Yeah.
Yeah, because actually in this DVD you have Jim Ross interviewing both guys sitting next to each other, and they're just talking about how they grew up in the WWE, and you know, up to the point where that rivalry came along, and of course the Montreal's screw job on Survivor Series 1997. You were talking about these two guys, you know, being put in a position they never been before. Do you believe that Shawn and Bret were like 100% honest about everything they said in that DVD?
As much as they're gonna be, I think that if there's any dishonesty, it has to do with memories of 14 years ago, as opposed to going out there and working. That's my thought. I don't think that either of them were out there working. I don't know how much Shawn remembers, and even maybe in some cases even chooses to remember, but he was, based on what I know, I don't think he said, you know, there were subjects that could have been more damaging to him that were not brought up, but I didn't get the impression watching him that he was dishonest at all. And with Bret, again, you know, there might be some minor points in the sense of, you know, memories not being perfect, but I sense that he was being very honest.
Because you see at one point the two guys crying about, you know, what they're saying, and you know, Shawn crying about, you know, being tough to be dubbed as always the bad guy and stuff, you know, so it's you wonder if really it's working, if he was working or if it was for real.
Well, with Sean, I mean, the thing is I felt that he was not going to argue with Brett on this DVD. I think there was only one time where he kind of stuck up for himself when Brett was kind of talking about, like, you know, the gay stripper dancing type of thing, and he kind of, you know, and Brett saying, like, how he kind of thought it was a bad, you know, kind of a bad thing, and then Sean was kind of defending that. That's about as far as it went. When it came to, like, you know, the key thing in the thing is, you know, like, at one point, Sean said, well, people say that, you know, I told Brett to leave the ring, you know, when he won the championship in Anaheim. And, you know, Sean said, like, I don't remember ever doing that. And then Brett said, well, you know, there's cameras and there's audio, and you did, and I was in the ring. And he said, well, okay, I guess so.
Do you thought, Dave, that Brett took, like, 80% of the interview on the DVD?
I don't know. I didn't time it out, but...
No, I mean, he was speaking more than Sean did on the DVD.
He was the dominant personality. Well, I think that Brett wanted to tell his story, and I think Sean knew he had to be there, and I don't know that... I think that Sean kind of knew that in this thing he was going to come off as the bad guy, so he tried to come off as the least bad guy possible, and, you know, he answered what was there, but I don't know that he was out there trying to aggressively say what was going on as much as, you know, because, like, whenever he was kind of accused, it was just kind of like he would accept it and just go, well, you know, I mean, I'm really sorry for how I was back then, and, you know, I'm not the same person type of a thing. So that's kind of how he kind of, like, that was kind of his pat answer to everything.
If you give us a moment, Dave will just translate what we just said for our French listener. Ce que j'ai demandé à Dave Meltzer, journaliste, évidemment, du très réputé newsletter Wrestling Observer, lui a eu la chance de voir, Patrice, le DVD en avance, quelques semaines en avance, et je lui demandais si c'était vraiment, là, un must, si c'était vraiment quelque chose que tous les fans de lutte devaient acheter, et il nous a répondu que, bon, les fans de cette époque-là, oui, ils devraient l'acheter, parce que c'est vraiment différent de ce que la WWE nous offre comme DVD habituellement. On a Jim Ross qui est assis devant Brett et Sean, tout le monde dans la même pièce, et ils parlent vraiment là très 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 là, ouvertement de leur carrière, de comment ils ont grandi dans la WWE jusqu'au moment où est arrivée cette rivalité là et le Montreal Screwjob Survivor Series 1997. On a demandé aussi à Dave si les deux gars étaient honnêtes à 100% dans leurs réponses, et ce qu'il nous a répondu, c'est que d'après lui, Brett se rappelle beaucoup plus de ce qui s'est passé que Shawn Michaels. D'ailleurs, Shawn Michaels, qui à un moment donné disait ne pas se souvenir d'avoir dit à Bret Hart lors de WrestleMania 12 à Anaheim de quitter le ring, et Bret qui lui a dit, ben écoute, il y avait des caméras et tout ça qui t'ont vu le dire, et il dit, bon, ok,
essaye de faire passer ça en storyline, genre.
J'ai dû le dire, exactement, parce qu'on voit Shawn Michaels et Bret Hart les deux pleurer à deux moments différents dans le DVD, et à un moment donné Shawn Michaels pleure en disant que, bon, c'est dur pour quelqu'un d'être toujours catalogué comme le mauvais garçon, et que, bon, c'était, il disait même à un moment donné que c'était le plus bas point de sa carrière. Dave, I would like to know also, do you think there's anything that was missing in that DVD? Anything that could have been added as far as Jim Ross asking questions to both guys?
Well, I mean, there's a ton. You know, you're just limited by time. So I never really got what I would say. Like, when it was over, it wasn't like... I mean, like, there were a lot of topics where I could have thought of, yeah, I'd like to hear more about, you know, almost everything. But in the end, it was like, you know, you only have so much time, and you could go into more detail on Montreal, and you could go into more detail on Sean, you know, winning the championship, and Sean in 1997. I mean, there was so much more to that. And even the comeback and when they made amends, you know, it's just, I think it was just limitations. So I thought, and I mean, the conversation, I think, was, you know, it's probably, I don't know how long it was on the DVD. It felt like about, you know, maybe 2 hours.
Yeah, 2 hours, 5 minutes.
Yeah, and I know that the actual conversation itself was over 4 hours. I think it was four
and a
half.
Oh, okay.
So it was heavily edited. So, you know, perhaps all of those things that I was thinking, like, you know, just I've gotten caught on the, you know, the cutting thing. I mean, I was very happy with it, because it was like, there were things you could go into. I kept thinking, well, you go into more detail on this and this, but you know what? It's like you didn't. I think they did about the right amount on Montreal because it was the key thing. It was what, you know, was going to sell the DVD. At the same time, I don't think that any of them wanted it to be a Montreal DVD because I think both guys, you know, certainly Sean and Brett too, both guys, I think, very strongly don't want their, you know, 20-plus year careers defined by, you know, the one night in Montreal, even though, you know, yeah, that's what's selling this DVD.
Yeah, exactly, because actually they go about an hour just on their career prior to what led to the Montreal Screwjob. And my next question is actually, what is the moment before the Screwjob that had the most influence on what happened on that day on the Survivor Series 1997? Is it what thing happened? What exactly was one single event maybe that really happened before Montreal, and you know that has the most influence on what happened then?
I believe it was the phone call a couple days, I think it was on the Wednesday before the Sunday, when they were at the booking meeting. You know, it was Vince and Bruce Pritchard. I don't know if Bruce Pritchard was there, but it was Vince, Jim Cornette, and Vince Russo were at Vince's house. And, you know, Vince was trying to figure out how to make it work, and Brett was just turning down. You know, Brett, you know, Vince kept coming up with finishes for Brett to lose, and Brett was just, I'm not going to lose in Montreal. And, you know, he was in his contract. So finally, Vince came up with the idea of, well, why don't you just win in Montreal? And if you win in Montreal, will you be willing to lose to him on the next pay-per-view? And he said, yes. They called up Sean, and Triple H, you know, was actually on the phone with him, and Triple H was the one who said, you know, Sean, you are not going to lose to him, and you know he's leaving our company. You're not going to lose to him. And if that conversation was just like, if Sean had just gone, yeah, you know what, you know, it's been, you know, really heated in this and that, and okay, you know, I'll lose in Montreal, and then, whoa, you know, I can win in Madison Square Garden, or I can win in what was it, Springfield, Massachusetts, I think was the site that they were actually going to do it in, or you know, they could have done. They had a TV show in Fayetteville. There were a number of cities. I mean, Brett was actually going to be there for another month, where they could have done the change. And so, to me, that's the key thing. I mean, that would be number one. And the other one would be the night in, and I don't know. I remember it may have been in San Jose, and it may have been in the Garden. But and actually, I think it actually happened twice. But when Brett was first told he was going to lose to Sean, this would have been maybe 6 weeks before the show. And Brett went to Sean and said, you know, I just want you to know I'm happy to lose to you. And, you know, whatever, you know, I'm willing to lose to you. And then Sean's reaction was, well, that's cool, but, you know, if the shoe was on the other foot, I'm not willing to lose to you.
Oh my
and
God.
At that point, that was like Brett's thing of like, well, screw you. And I remember this because I was actually out with one of the WWE wrestlers in San Jose when they were in San Jose, and I don't remember if it was that night in San Jose, but it had happened within two or three days of that day. I just remember I was out, and the guy was, I don't want to say who it was, but he was furious. I mean, he was just furious, and I thought it was like overreacting. I didn't realize what was coming, and just because Sean, you know, said he wouldn't lose to anyone, he wouldn't lose to Brett. He made it clear, he went, you know, right to Brett's face, I will not lose to you. And it's just like the guy, he was, the hotter he was like he was working himself into this state where it was like he was ready to go and punch Sean. And I said, look, you don't want to do that because, you know, he's a star and you'll get fired. But he was furious, and I at the time I just thought, God, he's, you know, overreacting to some, you know, flippant remark Sean said, not realizing that, you know, that was probably the other remark that led to this. Because when Brett heard that, it was like, you know, I can see where he came from. Like, I'm you know, a lot of people have a lot of views on what happened, and I understand to a degree Vince's position. I don't agree with it, but I understand it. But I really understand Brett's position, because I really, you know, a lot of guys have criticized him for not losing there, but, you know, including some, you know, big name wrestlers, you know, that don't know the whole situation. And I believe that every one of them, whether it's Flair or Hulk Hogan or Bruno or Jack Briscoe or any of those guys, if they were about to drop a title to somebody and that guy said, you know, well, thank you, but I will never lose to you, I'm sorry, I can't ever return that favor, I think that, you know, every one of them to a man would just go, well, screw him. I'm not losing the title to him. That's what they would do. And people would just go, oh, Brett was, you know, doing something that, you know, everybody else never had a problem losing. It's like, he didn't have a problem losing either. It was that remark is what did it. And, you know, if Sean had never said that, it never would have come down, because all he had to do was say, well, thank you very much, and I would do it to you. And they were never going to ask him to do it, and Brett would have just lost. But when he said that, it was just like that. That's what really was the other key one.
I'll just translate here, Dave. Que j'ai demandé à Dave Meltzer, c'est s'il manquait quelque chose au DVD, et il nous a dit que bon, oui, beaucoup de choses, une tonne de choses, mais en fait, bon, il était contraint par le temps. Le DVD a 2h05. Dave nous apprend qu'ils ont fait une entrevue avec Jim Ross pendant 4 heures. Donc oui, c'est sûr, ça a été édité. Il y a peut-être des choses dans cette autre 2 heures-là qu'on aurait bien aimé écouter à un moment donné. Ce que j'ai demandé aussi à Dave, c'est est-ce qu'en fait, c'est quoi les moments ou le moment qui a vraiment défini ce soir-là au Survivor Series, il arrive le screw job. Est-ce que Dave nous disait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelques jours avant le Survivor Series, un meeting de booking avec Vince, entre autres, et Bret Hart était là, et bon, il arrivait avec plein de scénarios, et à un moment donné, bon, Vince a demandé à Bret, si tu gagnes à Montréal, est-ce que tu es prêt à jobber la belle? Jobber la perte pour la ceinture au prochain pay-per-view. Brett a dit pas de problème. Parce qu'il y avait encore un mois sur
c'est
son
vrai.
Contrat.
Il restait 30 jours.
Avant de s'en aller à la WCW. Shawn Michaels ensuite a été appelé et c'est Triple H qui, dans l'oreille de Shawn Michaels, et sur le DVD, on entend Shawn Michaels dire Hunter told me F that. Il m'a dit, bon, il dit, tu sais, on oublie ça. Puis Shawn Michaels qui dit même, bon, je veux pas faire mal paraître Hunter ici, mais. C'est un peu lui qui m'a convaincu de ne pas accepter ça. Et par la suite aussi, quelques jours avant l'événement, il y a eu une discussion entre Brett et Sean, et Brett qui disait à Sean, je suis vraiment content, tu sais, de perdre la ceinture contre toi. Et Sean Michaels qui a dit merci, mais c'était l'inverse, moi je le ferais pas. Et c'est peut-être les deux là, les événements les plus marquants qui ont mené à la soirée qu'on connaît maintenant.
J'ai une question pour Dave. Hi Dave, I'm Patrice, I'm the host of the show. I have a question for you. It's been like 15 years now that this story happened. On all the DVDs was on the market about this story, which DVD was the most believable? I talk about Wrestling with Shadows, and now we have Greatest Rivalries. Which one of the two DVD tell the true story?
I think they both do, really. I mean, the Wrestling with Shadows, I mean, the one thing, the Wrestling with Shadows is pretty good as far as telling everything. It's a movie designed for people who weren't really wrestling fans, so a lot of the intricate details, you know, weren't in there. It was kind of painting like a picture of, you know, just kind of like, you know, a very simplistic picture of what happened, and making Brett out to be, you know, this guy who just didn't want to lose in his country on his last night in, and then just get double-crossed. And if you were, I mean, I think that if you're not a wrestling fan and you look at that, you would just go, oh, you know, like, you know, they promised him that he wouldn't have to lose, and then he did. But if you were a wrestling fan, you would go, well, you know, last night in the territory, you should lose. And I think a lot of people would look at it and say that, and it's like, but it wasn't that simple, but the movie wasn't done for that type of a wrestling fan. It was done for the average person. But I thought that, by and large, it was honest. In both cases, there were a lot more details that could have been out. But again, for the audience that they were going for, I don't know that it would have, you know, might have, I don't want to say confused them, but it would have just been maybe too many details for what people wanted. But I wouldn't say one is any more honest than the other. You know, they were both pretty straight, I would say. Like, you know, In the Wrestling with Shadows, Vince was like, you know, the complete villain.
Yeah, the violin, yeah.
Yeah, and in this one, you know, nobody was really made out to be a villain. I mean, Vince to a degree, but it was just more made out that it was, Brett was a victim, but not necessarily anyone was a villain. In Wrestling with Shadows, Earl Hebner was made out to be a villain, And in this one, you know, I mean, Earl Hebner's not made out to be a villain at all. It was just like, you know, he... And then it's hard to really blame Earl Hebner for this because, you know, let's face it, you know, he's a referee.
Yeah, he was just an employee.
Yeah.
How big, Dave, that match is historically wise for wrestling?
Well, you know, it's I think it's one of the biggest of all time for a number of reasons. Number one, again, the finish is the most talked about finish ever. I mean, not as much now as years ago. I mean, for years it was just ridiculously talked about. Now it's just kind of a piece of history. But I believe that realistically that it's the second most famous pro wrestling match ever in North America, behind the Hogan and Andre match from Pontiac Silverdome. I think would still be number one just because it's been portrayed as number one. Mm-hmm. But I would consider it number two. But the repercussions of this were much bigger because it led to the heel Vince McMahon and the Vince McMahon Steve Austin, and you know, the whole way that all went, you know, it changed the business forever. So the repercussions were more for this. You know, you take this match out of history, who knows what happens? I mean, I think at the end it probably would have ended up the same way, because Steve Austin was already going to get rolling and Steve Austin was going to be a big star. But if he didn't have Vince to work off of, would he have gotten as hot as he did? Probably not. And would business have gotten as big without Vince McMahon as a character? Again, probably not. So it you know, they were still going to win the war, though. I mean, that aspect, they were going to win the war. I do think that Austin Rock still would have been hot and business would have been as good, just not as big as it was. And then it would have gone down at the same point that it went down, for all the same reasons that it did. But I think that the boom was bigger because of what happened with you know, Vince's involvement as a storyline character.
Ce que Dave Meltzer nous dit ici à la question de Patrice, lequel des deux DVD entre ce DVD-ci et Wrestling with Shadows était le plus honnête à propos de la situation? Et Dave nous dit que les deux le sont probablement autant, mais différemment. Wrestling with Shadows était
plus romancé.
Plus romancé, et ça dit aussi plus le côté de Bret.
C'est ça.
Tandis que dans le Greatest Rivalries, on a vraiment les deux côtés de la médaille, et aussi comment important ce match est historiquement. Et Dave nous dit que c'est le deuxième plus important match en Amérique du Nord derrière André et Hogan de WrestleMania 3 à Pontiac, et que ça a surtout eu des conséquences vraiment là plus grande nature, avec la finition du match qui a été copiée plus qu'une fois, et aussi là ça l'a mené à Mr. McMahon comme personnage dans le show, à la rivalité avec Steve Austin. Il nous dit que bon, la guerre aurait quand même été gagnée par la WWE, mais ça l'a peut-être que Austin et ou McMahon n'auraient peut-être pas été aussi importants comme personnage. Last question for you, Dave. You know, you told it. You just told us that, you know, this is the finish that has been the most copied, you know, ever. But do you think that this DVD is the final chapter on the Montreal Screwjob, or on the opposite, it will create another buzz around it?
I think that it's always going to be something talked about whenever anything is done with Bret Hart. So I think that, like, you know, it'll... But as far as in this detail by WWE, yeah, I don't see where you go from here, because you did they already did the Bret Hart career DVD where he talked about it a lot. And Vince was on that one, so you had the Vince thing. Unless you had Bret and Vince sitting down, and almost at that point it would almost feel like over... It's kind of like, to me, it's like, you know, they did it here and you can't really go back.
Maybe something with Hunter.
Yeah, but he never really took the heat. You know, Sean was the one who took the heat.
Yeah.
So I you know, I don't, you know, because Bret and Hunter didn't have an in-ring rivalry at all. They wrestled a couple of times, but Hunter wasn't as big a star at the time. And by the time Hunter was a big star, Bret was long gone.
Mm-hmm.
So, yeah, you could talk about, like, that one phone conversation, but I don't know, you get a two-hour DVD out of, you know,
right,
one conversation where Hunter might defer everything. Well, you know, Sean wanted to do it. Because I know that when they were, there was when Hunter and Sean were doing a book together, you know, I think the DX book, you know, their thing was as well, we said it because we knew Vince was thinking it. So we just, no, like, Vince never said it, but we knew he was thinking it. And you know what? He may very well have been thinking it, you know, and just, you know, kind of manipulated Hunter into saying it. You know, I mean, you can't say that that's not true. I wasn't in the phone conversation, obviously, no one else was. It makes a nice story. I mean, and it may be true, or it may, you know, and again, everyone's got their way of absolving guilt. I mean, like Sean's thing was, you know, like you said, well, I don't mean to throw Hunter under the bus, but he kind of like, you know, Hunter told me, so I listened. And Hunter can just say, well, you know, Vince wanted it that way, you know. And I'm sure, you know, Vince wouldn't have done the screw job if he didn't want to do the screw job. At the same time, I'm sure also that that was also Vince's last resort. And I've got to believe that if, you know, if Vince would have been not happy necessarily, because I'm sure he didn't want Brett winning, but given the situation, I got to believe that Vince would have been going like, look, if he's going to lose to Sean on the way out, but he has to win the first one because Sean never did return that win because all the times he was supposed to, things happened. It's like, okay, you know, I'll do it. I mean, I don't think he'd be happy. I'm sure that if Vince had his way, it'd be in Montreal, Brett would put Sean over, and that would be that. But I think he would have accepted the other way. So I don't believe that, you know, Vince wanted them to do that, you know, at the end. I believe that Vince did it because in his mind, it was the only way out of the situation.
Dave Meltzer, we can subscribe to your newsletter on the www.wrestlingobserver.com or f4wonline.com. We can listen to you, to your radio show with Brian Alvarez as well. There is a few free shows every week. Thank you very much for doing this interview, Dave, and we'll talk. We'll talk soon.
Okay, thanks very much, Pat.
OK, bye-bye.
Everybody else too. Bye-bye.
Bye.
Alors, Dave Meltzer qui nous dit en terminant que lorsque je lui ai demandé si c'était pour être le dernier chapitre de ce Montreal Screwjob avec le DVD, et il nous dit, bon, selon lui, la WWE ne fera pas d'autres DVD, n'en parlera sûrement plus là, de cette façon-là, aussi détaillée. Il y a eu Bret Hart qui a fait son DVD, Vince McMahon en parle là-dedans. Il disait peut-être une rencontre entre Bret et Vince. J'ai proposé Hunter parce que on apprend dans le DVD où on serait mort dans le DVD en fait que Triple H est celui là qui a poussé beaucoup Shawn Michaels pour qu'il n'accepte pas de perdre à Montréal. Et puis bon, Dave nous disait qu'il n'y a pas vraiment eu de rivalité entre Bret Hart et Hunter.
Quand il commençait de vedette, Bret était déjà là.
Exactement, et ça serait difficile de faire un DVD de deux heures avec lui et Hunter. Mais que quand même, là, c'est ça risque d'être le dernier chapitre de ce Montreal Screwjob que tout le monde entend parler depuis novembre 97.
Merci beaucoup, Pat. Très intéressant. On s'arrête quelques instants. On revient, TOW Radio Show 1570 AM à Laval ou bien le www.1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de Patrice Valtet et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici Marc Blondin. J'ai découvert un resto très spécial au Mont-Tremblant, directement au pied des pentes de ce populaire village touristique. Le restaurant La Savoie, où on vous sert les spécialités savoyardes, la raclette, les différentes fondues, pierrades, le tout dans une ambiance unique et conviviale. De plus, les adeptes de bon vin seront bien servis au 115 chemin Kandahar à Tremblant. Tous les détails de ce resto unique et apprécié depuis 18 ans au restaurantlasavoie.com.
ça me fait rire souvent. Des gens écoutent Nickelback, écoutent cette chanson-là en ne sachant pas que c'est la chanson thème de Ra. Et puis, quand je dis, c'est la tune de Ra, le monde ne sait pas de ce que je parle. Patrick, avant de passer à la prochaine chronique, très intéressant cet échange avec Dave Melzer. Je trouvais qu'il y avait des similitudes avec toi.
Tu trouves?
Vous arrêtez pas une seconde, hein? C'est bla 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 bla. Mais c'était super bon. Je suis content de l'avoir eu en entrevue. Merci. Chanson thème de Raw, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va parler de l'épisode de Raw qui s'est déroulé hier. Enfin, on avance concernant la venue de The Rock. Si tu peux me permettre, Patrick, je trouve que Raw boite un peu depuis un mois.
Oui, je trouve généreux en disant un mois.
Ben écoute, depuis l'histoire de CM Punk.
Exactement, on a eu deux semaines le fun avec CM Punk et toute l'histoire derrière là. Il coupait le micro, il faisait des entrevues plus edgy qui donnait qui était vraiment là un shoot, ce qu'on appelle un shoot, ça veut dire parler de ce qui arrive dans la vraie vie, qui exposait un peu la business. Et moi, je trouve que le problème que la WWE a eu, c'est qu'ils ont ramené CM Punk beaucoup trop rapidement. Et ils ont eu le même problème aussi avec The Miz et R-Truth. Je veux dire, la constance dans le booking de la WWE présentement est ce qui leur fait le plus mal. Une journée, Triple H n'est plus COO. Le lendemain, il est la semaine d'après, il est revenu sur le show. On donne pas vraiment d'explications. Le plus bel exemple, c'est le fameux email du General Manager. On n'a jamais su c'était qui, parce que c'est une idée qu'ils ont tout simplement, ils savaient plus où s'en aller avec ça, et ils ont tout simplement décidé de laisser aller l'idée. Et ça arrive trop souvent présentement avec la WWE.
En parlant de l'ordinateur qui personnifiait le GM à Raw, est-ce qu'il est décédé la journée où ce que The Rock l'a sacré une volée à WrestleMania?
Je ne me rappelle plus c'est quand. Je me rappelle pas si. Non, je crois que c'est revenu. Il est revenu à quelques reprises, si je me trompe pas. Après WrestleMania, oui, il est définitivement revenu, parce que j'ai assisté à un house show au Madison Square Garden au mois de juin, et il y avait encore le pupitre là, avec l'ordinateur dessus.
Est-ce qu'ils s'en sont servis durant le house show?
Oui.
Oui, OK. Oui. En début d'émission, on parlait justement des rivalités. On a parlé de la rivalité entre Hulk Hogan et Andre the Giant, qui a apporté également la rivalité entre Macho Man et Randy Savage, qui s'est construite durant un an, qui nous a apporté à WrestleMania 5. Mais là, on va parler de la rivalité entre John Cena et The Rock, qui a débuté l'an passé. Et puis, je me rappelle très bien, le lendemain de Raw, on a eu le fameux face-à-face dans le ring qui allait nous donner un prélude au WrestleMania de l'année suivante, c'est-à-dire WrestleMania 28, qui aura lieu cette année. Et puis, on est déjà rendu au 7e mois. John Cena n'est pas blessé, et puis The Rock... Ben, le nom à The Rock a été nommé hier comme étant le partenaire à John Cena pour le Survivor Series.
Exactement. Écoute, je pense que la première fois dans l'histoire de la WWE qu'on annonce la finale du WrestleMania un an d'avance, qu'on le sache. Ça, c'est important. Qu'on sache où on va un an en avance, ça, c'est la chose la plus importante dans un booking. Par contre, qu'on dise à la foule qu'est-ce qui va arriver un an plus tard dans le main event de WrestleMania? De un, ça s'est jamais vu. De deux, c'est risqué. Comme tu l'as dit, John Cena n'est toujours pas blessé. Je touche du bois pour la WWE, parce que ce serait complètement une catastrophe si ça arrivait. La même chose à The Rock, quoique The Rock a peut-être moins de chances de se blesser. Par contre, on fait lutter The Rock au Survivor Series.
Contre The Miz et R-Truth.
Oui, en équipe avec John Cena. Je veux bien croire que, bon, le match va probablement, là, dans le match, il va probablement avoir un désaccord John Cena et The Rock, parce que en bout de ligne, on veut que les deux s'affrontent dans les mois qui vont suivre. Mais je trouve ça particulier de le faire lutter d'avance. Moi, je pensais que WrestleMania était vraiment pour être le retour du Rock dans le ring et qu'on était pour concentrer toutes nos énergies pour aller chercher le plus gros buy rate de l'histoire de WrestleMania, le retour du Rock dans le ring. Et là, on va comme séparer ça. On va sûrement avoir un Survivor Series beaucoup plus fort qu'à l'habitude. Par contre, WrestleMania... Est-ce qu'il va être vraiment désavantagé de ne pas avoir le retour du Rock? Peut-être pas. Ça va vraiment dépendre de comment on joue nos cartes dans l'histoire, dans la rivalité entre Cena et The Rock.
Je lis beaucoup le site PW Mania, pas celui à Merdure, parce que celui que je lis, il est gratuit, puis c'est pas souvent les mêmes nouvelles et les mêmes scoops. Ce que j'ai lu, c'est que le Survivor Series de cette année aura possiblement la même thématique que les années auparavant, c'est-à-dire pas toute la carte, mais le match final qui sera un 4 contre 4. À ce que j'ai lu, The Rock, John Cena, Triple H et CM Punk contre Alberto Del Rio, R-Truth, The Miz, un quatrième qui serait peut-être Kevin Nash, parce qu'on sait qu'il y a une jambe de bois, Kevin Nash. Il peut pas faire un match de 20 minutes.
Je te conseillerais peut-être de commencer à payer pour avoir,
ouais, non, mais
pour avoir de tes nouvelles. Non, je fais des farces, Patrice, mais...
J'ai lu.
Ouais, non, mais je fais des blagues, mais écoute, de ce que j'ai lu, moi, aujourd'hui, on a 3 matchs d'annoncer. Écoute, ça pourrait peut-être changer en 4 contre 4, mais ou même peut-être en 4 contre 4, en fait. Mm-hmm. Ce que moi, j'ai lu, c'est The Rock et Cena contre Miz et Truth. Et ça, ce qui est important de mentionner, c'est que la WWE a annoncé ce match-là il y a plus d'un mois que c'était pour arriver. Rock, Cena contre The Miz et Truth. Et c'est pour ça que hier, à la fin de Raw, quand John Laurinaitis lui demande de choisir un partenaire, c'était pas une surprise. C'était sûr que John Cena était pour nommer The Rock. Ça avait déjà été dit via les sites internet quand ils ont commencé à publiciser Survivor Series. L'autre match serait pour le titre CM Punk et Alberto Del Rio. Parce qu'on a commencé à pousser fort hier le fait que CM Punk n'avait jamais eu son combat revanche face à Alberto Del Rio. Et on travaille sur un match entre Triple H et Kevin Nash. Kevin Nash qui a laissé savoir que il allait beaucoup mieux et que il était là, il a même dit qu'il était aussi en forme qu'à ses 30 ans. Alors on peut espérer le mieux de ce genre de combat là. Par contre, je penserais pas qu'on y aille avec un 4 contre 4 parce que ça serait vraiment mettre tous les œufs dans le même panier.
C'est ça.
Et peut-être que les autres matchs, Patrice, par exemple, vont avoir des thématiques Survivor Series, 4 contre 4, 5 contre 5, mais je douterais fort qu'on rassemble les 8 lutteurs qu'on vient de nommer dans un même match.
C'est ce que j'avais lu. J'espère de me tromper. Est-ce que t'es fan de Miz et R-Truth, l'équipe qu'ils font en ce moment?
Écoute, est-ce que je suis fan? Je pense que ça l'a...
Fan en voulant dire, est-ce que t'embarques?
C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça a une bonne réaction? Je pense que oui. Par contre, est-ce que ça aurait pu en avoir une meilleure? Je pense également que oui. On a ramené Miz et Truth beaucoup trop rapidement, un peu comme Punk. Parce qu'à un moment donné, je pense que la WWE pèse sur le bouton panique trop rapidement. Ah, les ratings descendent un peu. Ah, il y a ci, ah, il y a ça. Et finalement, ramène des gars trop tôt dans des angles et dans des histoires qui pourraient durer beaucoup plus longtemps. Surtout que là, présentement, la WWE a ces deux émissions, là, on s'entend, le talent est échangé un peu partout. On voit des...
Ils mélangent les deux, là.
Ils mélangent les deux. C'est vraiment plus deux promotions distinctes, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec aussi cet angle-là de Miz et Truth. Écoute, j'aime le concept général de comment ils sont bookés. Par contre, j'aurais aimé ça qu'ils fassent durer le suspense un peu plus longtemps, qu'ils fassent une histoire où les deux interviennent, mais sans nécessairement être ramené déjà dans la WWE. Tu sais, on dit une semaine qu'ils ont plus de contrat, qu'ils sont plus dans la compagnie. L'autre semaine, on dit qu'ils sont dans la compagnie. Je te disais au début tantôt qu'il y avait pas de constance. Ben, il y en a vraiment pas une. Maintenant, quelqu'un se fait congédier en direct à Raw et puis personne n'y croit. On a ramené Jim Ross la semaine d'après.
Kevin Nash aussi, écoute, il l'avait même mis sur le site internet, release.
Exactement, tu sais, à trop faire, tu sais, ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois, mais à un moment donné, à trop le faire, on finit par complètement perdre intérêt là-dedans, un peu comme TNA, qui à chaque Impact ou à chaque pay-per-view, il y a des interventions et encore d'autres interventions. Oups, que c'est ça, une autre intervention. C'est juste de ça. Que tu le fasses une fois ou deux, c'est quelque chose. Mais à un moment donné, faut mettre un équilibre dans tout
ça.
Et je pense que on cherche souvent le easy way out, hein, la sortie facile.
Ouais.
Et puis, c'est pas toujours la bonne pour la business. Et on peut pas dire que ni pour TNA, ni pour la WWE, même si c'est les deux plus grosses probablement au monde présentement, on peut pas dire que la business est à son maximum présentement.
J'ai pensé à toi hier soir quand Michael Cole, pour une énième fois, perte de temps d'antenne. Il y a Michael Cole qui a lancé un défi à Jim Ross de l'affronter, puis si Michael Cole perd, il quitte. Est-ce que ça va nous apporter un combat à Survivor Series, ou bien encore une fois?
Écoute, j'espère.
Je sais même pas quoi penser de
j'espère
ça.
Que non. Écoute, la seule façon que je verrais ça pour apporter un combat à Survivor Series, c'est que, comme tu disais tantôt, un vrai combat old school Survivor Series, une équipe dirigée par Michael Cole contre une équipe de 4-5 lutteurs dirigée par Jim Ross, et je dis bien dirigée, qui soit dans les coins de chacune de leur équipe, mais de grâce, ne les faites plus lutter. Et j'espère que si on fait un Survivor Series, ça va être vraiment le point final sur cette rivalité qui mène nulle part, qui est mauvaise. Écoute, Michael Cole, autant que je pouvais apprécier son côté arrogant et son côté, où, vraiment, son parler au micro et de la façon qu'il était comme heel quand il a commencé, bon, à virer un peu plus heel avec le general manager qu'on parlait et tout ça. Là, je trouve qu'il est devenu une risée. Il n'arrête pas de parler de Twitter. La WWE a nécessairement aussi une obsession avec Twitter présentement. C'est ceux qui ont écouté Raw. On ne mentionne que ça. Les lutteurs arrivent au ring et on marque leur Twitter en dessous. Et en même temps, on dose les lutteurs. On veut que les lutteurs soient dans leur gimmick en parlant sur Twitter. Twitter qui, on s'entend, ça peut être quelque chose de dangereux si on s'en sert trop tard le soir, si on s'en sert quand on est intoxiqué, si
fatigué,
on s'en sert
ouais.
fatigué. Écoute, donc, c'est jouer avec le feu, je trouve. Et pour revenir à Cole, on s'éloigne, on passe du coq à l'âne ici, là, mais Ross et Cole, c'est vraiment quelque chose que je veux tellement pas voir un contre un. Écoute, et mon idée sur Survivor Series, je sais pas ce que t'en penses, Patrick, je pense que ça serait une bonne idée.
Oui, absolument.
Et probablement parce que c'est une bonne idée, ils le feront pas.
Ce qui me fait gratter la tête dans tout ça, c'est de voir Jerry the King Lawler, qui était l'adversaire à Michael Cole à WrestleMania, qui n'intervient pas, je veux dire... En tant qu'histoire logique, me semble que Jerry Lawler est beaucoup plus en moyen que Jim Ross. Il pourrait brutaliser un peu Michael Cole, mais bon, ça c'est mon idée à moi.
Jim Ross, d'ailleurs, Patrice, qui a dit sur son Twitter qu'il n'était... il disait quelque chose comme « Si vous pensez que je vais être à Atlanta la semaine prochaine, ben vous êtes un peu dans le champ parce que... Il dit vraiment, je vais le lire en anglais,
ouais,
puis on va le traduire après. I know I'm likely walking into a setup Monday in Atlanta, but this is my hill to die on and not. Écoute, il dit carrément que, parce que la WWE, Vince McMahon a un malin plaisir à toujours insulter et toujours faire mal pareil Jim Ross, encore plus quand ils sont à Oklahoma. Et puis...
Ben, ils font ça à tous les lutteurs quand ils sont dans leur ville natale. Hein. Au lieu de les mettre en héros, ils les ridiculisent.
Exactement. Et Jim Ross particulièrement, c'est un peu la tête de turc de Vince McMahon pour une raison vraiment j'ignore, parce que je pense qu'il y a juste Vince McMahon à qui ça fait rire. Et bon, c'est sûr que si Jim Ross est impliqué dans quelconque match avec Michael Cole la semaine prochaine à Atlanta, ça va être encore tourné au ridicule, ça va être encore pour le faire mal paraître. Et pourtant, écoute, justement sur le Wrestling Observer, il y avait un sondage aujourd'hui et les résultats disaient qui est le plus grand commentateur de tous les temps de lutte?
Jim Ross.
Et Jim Ross a gagné avec 54%, là, 24% devant Gordon Solie qui animait là aux États-Unis à la dans les années dans les années 60-70.
C'est pas lui qui avait un accent
British? Dans Championship
British?
Wrestling, non. C'était Lord Alfred Hayes qui avait un accent British. Gordon Solie, qui est en Floride là, pour Championship Wrestling. Je dis Floride, là, mais il y avait aussi d'autres.
Atlanta.
Atlanta et les Carolines.
Tu parles de Jim Ross, de ses belles années à WCW, mais à un moment donné, il a fait comme un shoot sur le ring à Jim Ross en disant qu'il avait sa job de commentateur pour les Falcons d'Atlanta. Il y a bien longtemps de ça. Je te parle de 93. Je sais pas si t'as déjà eu...
Qui avait dit ça, tu me dis?
Jim Ross avait fait un genre de d'intervention au micro qui était fâché. T'sais, la première fois qu'il avait laissé tomber sa job... Est-ce que t'as
un
souvenir
pas,
de ça?
J'ai pas de souvenir de ça. Je sais que Jim Ross a toujours rêvé de commenter, d'être le commentateur d'une partie de football professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Vince avait parti
la XFL.
La XFL, Jim Ross était l'un des deux commentateurs.
C'est ça que je vais te parler, la IBF. T'as rappelles-tu de ça? Quand il voulait faire un Bodybuilding Federation?
Absolument. Ben oui, absolument. Puis d'ailleurs, une histoire intéressante par rapport à ça. Vince McMahon, avec sa c'était la World Bodybuilding Federation, la WBF.
La WBF, c'est ça, moi je dis la IBF, mais
en fait, la IBF, c'était la IIBF qui était la plus grosse promotion de culturistes, qui était dirigée par deux Montréalais, les frères Wider, Joe et Ben Wider. Et écoute, une histoire intéressante rapidement par rapport à ça, Vince McMahon pensait pouvoir jouer le même tour au Wider qu'il avait joué aux autres promoteurs dans les territoires, excuse-moi, et lorsqu'il a commencé sa promotion, avait laissé un contrat devant chacun des chambres d'hôtel de tous les culturistes qui faisaient partie de la compagnie des Weeder, en pensant qu'il était pour tous s'en venir avec lui, un peu comme il avait fait dans le temps, et à sa grande surprise, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu, et c'est au contraire, les Weeder ont eux aussi joué le même tour à Vince, et en l'espace de peu de temps, la moitié de l'alignement des culturistes de Vince s'en allait avec les Weeder, et tout comme la XFL, la WBF a été une autre atrocité qui n'a pas très très bien fonctionné pour Vince McMahon.
Il y a une chanson qui fait fouin fouin fouin.
Ouais, exactement.
rapidement, hier, je sais pas s'il me reste du temps, c'est 2 minutes. Alicia Fox a gagné contre Natalia Neidhart hier. Je sais pas si c'est conséquent à notre émission, mais quand même, la division Diva qui est répétitive.
Ouais, mais c'est pas trompant. T'as deux très bonnes lutteuses, Beth Phoenix et Natalia. C'est probablement les deux meilleurs du roster, suivi de Eve Torres peut-être, mais qui à mon avis est loin derrière. Et écoute, on les utilise, on fait perdre Natalia hier, mais en même temps, je peux pas vraiment les blâmer. Ils ont pas de filles avec qui vraiment compétitionner. Il faudrait qu'ils luttent l'une contre l'autre pour avoir des bons matchs. Quoique, le match à Vengeance était relativement bon par rapport à des matchs que j'ai vus de lutte féminine à la WWE ou à TNA. Alors, faut quand même leur donner ça à Vengeance. Le match de filles a bien été, mais c'est malheureusement peu souvent le cas.
Vengeance, t'ouvre la porte, Patrick. En terminant, on a eu une répétition. Le ring qui s'écroule. Big Show contre Mark Henry. À ma grande surprise, même l'arbitre a eu mal.
Écoute, l'arbitre a pris un bump et je suis content d'avoir vu les deux, c'est-à-dire Brock Lesnar contre Big Show aussi, je l'avais vu live à SmackDown et celui-là aussi. C'est toujours un moment qui est très fort en émotion. On a vu la foule pour la seule fois du show se lever d'un coup sec et c'est vraiment toujours impressionnant à voir et je trouve que c'était une bonne idée de mettre un last man standing après parce que ça permettait justement à aller à l'extérieur du ring, même si dans le ring, il pouvait pas faire grand-chose, au moins c'était bien booké et je vais leur donner ça.
Tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que c'est direct ce que j'allais dire. C'était très bien pensé pour la fin du match qui n'était pas vraiment nécessaire d'être dans le ring. C'est déjà tout pour nous, Patrick. On dépassera pas notre temps comme la semaine dernière. Je te remercie d'avoir été là, Patrick.
Ben merci à toi.
Je t'en Blackberry puis réponds-moi.
Ben oui, écoute, j'ai les résultats de show qui rentrent en même temps. Écoute, je suis bien occupé. Merci beaucoup, Patrice. C'est toujours un plaisir et je vais être là la semaine prochaine.
Je remercie Patricia Molloy aussi qui était là ce soir. Merci beaucoup, Patricia.
Merci, Patrice. Merci, Patrick.
Ensuite, les chroniques sur RDS.ca.
Oui.
Donc, merci beaucoup. Je remercie Marc Blondin qui était là par téléphone. Sly Grenier, Sylvain Grenier qui était là. Simon Dean. Dave Melzer qui était là également.
Handsome GF.
Handsome GF qui a fait une interruption. Ouais, ça, fuck. Il se fait se taper sur les doigts. C'est pas très, très gentil d'interrompre des pros de la radio. Merci à tout le monde qui était là ce soir. Vous avez écouté TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM. Également, le www.1570.ca. Patricia, deux secondes, je veux que tu me dises le site internet que les gens peuvent nous écrire, l'adresse courriel.
L'adresse courriel, c'est le 1570@commercialtowlut.com.
Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye.